la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette saison à la croyance, Angélique Thébert s'interroge sur la manière d'apprendre à bien croire.
Bonsoir. Je crois avoir remarqué qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà là à midi et demi. On a une journée exceptionnelle. On a deux conférences ce soir. Sans doute parce que c'est une année bissextile, on va dire. Donc à midi, nous avons suivi les pas de la sociologie en compagnie de Gérald Bronner. Et ce soir, nous reprenons, nous rechaussons nos lunettes philosophiques en compagnie d'Angélique Thébert, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Nantes, qui est membre aussi du Centre de recherche philosophique atlantique. Alors, vous êtes une spécialiste de philosophie britannique, mais vous travaillez également sur la philosophie de la connaissance et la philosophie de l'esprit. Alors peut-être que définir en quelques mots rapidement ce qu'est la philosophie de l'esprit pour ceux qui...
Donc je travaille plutôt en théorie de la connaissance.
Théorie,
ouais. Voilà.
Oui, plus que philosophie. Ouais.
Mais il y a des liens, évidemment, intrinsèques entre les deux. Non, on réfléchit, on va dire, sur la nature du mental. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'est le mental. Et en théorie de la connaissance, on réfléchit plutôt à l'articulation entre les concepts de connaissance et de croyance.
Voilà. D'où votre présence ici ce soir. Alors, je vais vous passer tout de suite la parole. J'avais prévu, mais je vais abréger. Le titre de votre conférence, pardon, est « La possibilité d'une éthique de la croyance ».
J'écoute. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Donc je voudrais examiner avec vous la question de savoir ce qu'implique de penser qu'il existe une éthique de la croyance. Parler d'une éthique de la croyance peut paraître étrange, surtout si l'on pense qu'une telle éthique correspond à un ensemble de règles nous dictant ce que nous devrions croire. À première vue, il semble que nos croyances constituent un îlot de liberté préservé de l'océan des obligations qui circonscrivent nos actions, si bien qu'il n'est pas intuitivement évident de comprendre en quel sens il existe une éthique de la croyance. Alors, en réalité, parler d'une éthique de la croyance ne revient pas du tout à militer en faveur d'une police de la croyance. La finalité d'une telle éthique n'est pas de formuler des règles qui nous dicteraient ce qu'il faudrait croire ou penser sur telle ou telle question. L'éthique de la croyance ne vise pas à imposer des contenus de croyance. Afin de le comprendre, je vais partir d'une définition générale de la croyance. Alors, dans la philosophie analytique contemporaine, on définit les croyances comme des attitudes propositionnelles par lesquelles nous jugeons que quelque chose est le cas. Par exemple, je crois cette proposition, je crois que l'organisation des JO à Paris cet été est l'occasion de nombreux aménagements dans les réseaux de transport. Ma croyance est une attitude de l'esprit qui consiste à juger vrai cette proposition. Donc on voit que les croyances ne sont pas des attitudes de l'esprit exceptionnelles, comme pourrait le laisser penser leur réduction aux croyances religieuses. Au contraire, l'état naturel de l'esprit humain est de croire, c'est-à-dire de tenir pour vrai une multitude de propositions qui ne sont pas toujours explicitement formulées. Si nous ne cessons de croire, cela ne nous empêche pas parfois de mal croire. Généralement, on estime que nos croyances sont défectueuses quand nous ne croyons pas ce qu'il faut. C'est le cas, par exemple, si nous croyons que Lagos est la capitale du Nigeria ou que Samuel Beckett est français. Ces croyances ne sont pas correctes parce qu'elles sont fausses. Ainsi, même si la croyance est une attitude de l'esprit qui consiste à tenir une proposition pour vraie, il peut se faire que ce que l'on tient pour vrai soit en fait faux. Bien que la croyance vise la vérité, elle peut manquer sa cible. Nous estimons alors que la personne a tort d'avoir cette croyance. Quand nous faisons ce type de jugement, nous n'évaluons pas tant la croyance que la personne qui croit. C'est la personne qui est blâmable, en particulier la manière dont elle conduit son entendement, c'est-à-dire la manière dont elle forme ses croyances, les corrige, les abandonne ou les maintient. Mal croire, ce n'est pas nécessairement croire le faux ou ne pas croire ce qu'il faut, cela consiste surtout dans le fait de ne pas croire comme il faut. Une personne peut tout à fait avoir une croyance vraie, mais être blâmable d'un point de vue intellectuel si elle n'est pas parvenue à cette croyance comme il faut, c'est-à-dire de la manière appropriée. L'enjeu est donc de préciser ce qu'est une conduite éthique de l'esprit. Je vais défendre l'idée selon laquelle bien croire ou conduire éthiquement son esprit, c'est être une personne vertueuse intellectuellement. Une telle idée implique que bien croire ne consiste pas à obéir à des règles abstraites, comme s'il y avait un code général de la bonne conduite de l'entendement que nous devrions connaître avant de nous engager sur la route de la croyance. Notre responsabilité en matière de croyance se loge plutôt dans la manière dont nous modelons petit à petit nos traits de caractère intellectuel. Pour le comprendre, je préciserai en quoi consiste l'attitude de personnes vertueuses intellectuellement, avant d'expliquer pourquoi il peut sembler difficile aujourd'hui de croire comme il faut, c'est-à-dire d'être vertueux intellectuellement. Alors, quand on parle de l'éthique, par exemple de l'éthique médicale, on a en tête un champ de réflexion dans lequel plusieurs options s'offrent à l'agent. Les manières d'agir dans telle ou telle circonstance n'étant pas encore codifiées, on s'appuie sur l'analyse de cas précis pour proposer des règles qui pourront ensuite servir de guide lorsque l'agent devra prendre une décision dans des situations de conflit ou en contexte d'incertitude. Le présupposé est que l'agent pourrait, s'il le voulait, tout aussi bien faire une action qu'une autre. C'est parce qu'il dispose d'une marge de manœuvre qu'on peut lui recommander des principes d'action qu'il peut accepter de suivre ou non. Si l'on transpose cette remarque dans le domaine de la croyance, cela implique que les personnes auraient le contrôle sur leurs croyances, de même qu'elles ont le contrôle sur leurs actions. Si tel n'était pas le cas, il semble que l'idée même d'une éthique de la croyance n'aurait pas de sens. En effet, les personnes ne peuvent être blâmées ou félicitées pour les croyances qu'elles ont que parce que l'on estime qu'elles ont la capacité de les choisir. En d'autres termes, elles ne peuvent être jugées responsables de leurs actions que si les croyances sont le fruit d'une décision. Alors ce serait du moins le cas pour l'acquisition d'un certain type de croyances, celles pour lesquelles on ne dispose pas de preuves complètes et objectives, mais seulement de raisons plus ou moins probables. Il semblerait que lorsque nous avons affaire à des croyances pour lesquelles nous ne disposons pas d'éléments probants définitifs et incontestables, ce soit la volonté qui donne le coup de pouce à l'agent pour qu'il se mette à croire que P. P désignant une proposition comme « je crois qu'il va pleuvoir demain ». On suppose que la volonté de l'agent aurait tout aussi bien pu faire pencher la balance de l'assentiment de l'autre côté et le conduire à croire que non P. Qui plus est, l'assentiment à une proposition peut être accordé dans des proportions variables, de façon plus ou moins ferme. Et c'est justement parce que l'agent dispose d'une marge de manœuvre dans ce domaine qu'il est nécessaire de formuler des règles dont la finalité est de le guider et de l'aider à prendre la meilleure décision. Parmi ces règles, la règle de l'évidence est la plus emblématique. Elle prescrit à l'agent de proportionner la force de son assentiment en fonction de l'évidence perçue, c'est-à-dire en fonction des éléments probants disponibles, de leur qualité, de leur quantité, de leur congruence. Alors voici la manière dont John Locke formule cette règle. Si l'esprit veut procéder rationnellement, il doit examiner tous les motifs de probabilité et voir comment il confirme ou infirme plus ou moins telle proposition probable avant de lui donner ou de lui refuser son assentiment. Puis, après avoir bien pesé le tout, il doit la rejeter ou l'accepter avec un assentiment plus ou moins ferme, selon que les motifs de la probabilité sont plus ou moins en faveur d'un côté ou de l'autre. Par exemple, l'assentiment doit être faible si les preuves disponibles sont peu nombreuses et de piètre qualité. Il doit même être refusé si les données ne sont pas conformes à notre expérience singulière. C'est le cas du roi de Siam, dont Locke rapporte qu'il n'accordait aucune vraisemblance au fait qu'en Hollande, pendant la période la plus froide de l'année, l'eau se durcit tellement fort qu'elle pourrait porter des éléphants s'il y en avait. Pour autant, même si la règle de l'évidence oblige les individus, elle ne les contraint pas. Si elle s'impose à eux comme un devoir, ils restent libres de lui obéir ou pas. En d'autres termes, en vertu du principe selon lequel devoir implique pouvoir, on ne peut ordonner à quelqu'un que ce qu'il est capable de faire et que ce qu'il peut décider de ne pas faire. C'est pourquoi on estime que les individus ont le pouvoir d'ajuster le degré de leur assentiment à leur guise. Même si cela va à l'encontre de leur devoir intellectuel, ils sont psychologiquement capables de contrôler leur assentiment et d'accorder un niveau de confiance à une proposition qui n'est pas en adéquation avec les preuves disponibles. Par exemple, on peut parfois contredire la force des probabilités manifestes et ne pas se rendre à l'évidence. C'est le cas de l'amoureux transi, qui ne veut pas croire que sa maîtresse le trompe malgré la multiplication des témoignages de son infidélité. Ou bien encore, on peut accorder à une proposition un assentiment dont la force va bien au-delà des degrés de l'évidence perçue. En bref, selon cette ligne de pensée, Une éthique de la croyance n'est possible que si nous sommes responsables de nos croyances. Or, nous ne pouvons être responsables de nos croyances que si nous pouvons exercer un contrôle direct sur elles, c'est-à-dire que si nos croyances sont des actes de notre volonté. Souscrire à une éthique de la croyance aurait donc pour corollaire l'adoption du volontarisme doxastique, doxastique renvoyant à la doxa, c'est-à-dire à la croyance. Comme le résume Pascal Angèle, l'argument prend la forme suivante. S'il y a des obligations propres à la croyance, alors la croyance est soumise au contrôle volontaire. Il y a des obligations propres à la croyance, donc la croyance est soumise au contrôle volontaire. Ainsi, souscrire à une éthique de la croyance nous encouragerait à traiter les croyances comme des actions que nous pouvons décider d'accomplir ou non. L'homme rationnel serait un homme responsable de ses croyances, qui ajuste la force de son assentiment en fonction des preuves disponibles. Mais il conserverait par-devers lui la capacité de graduer son assentiment en deçà ou au-delà de cette évidence. Cependant, l'idée selon laquelle nos croyances sont soumises au contrôle volontaire apparaît contre-intuitive. Pouvons-nous réellement décider de croire du fait de notre seule décision, en dépit des évidences disponibles ? Deux arguments peuvent être apportés pour contester la thèse du volontarisme doxastique, du moins telle que nous l'avons présentée dans sa version la plus radicale. Le premier argument est inspiré de remarques que Bernard Williams a exposées dans un article intitulé « Deciding to Believe ». Selon cet argument, si nous pouvions vraiment acquérir une croyance du seul fait de le vouloir, cela nous placerait dans une position incohérente qui nous conduirait à renoncer sur le champ à cette supposée croyance. Williams montre que l'on ne peut pas croire consciemment en toute lucidité ce que l'on veut. Il prend l'exemple d'un père qui décide de croire que son fils est vivant en dépit du fait que l'on n'a pas retrouvé son corps suite à un accident en mer. Le problème est que s'il décide consciemment d'acquérir la croyance que P, mon fils, est vivant, parce qu'il veut croire que P, et non en vertu de la prise en compte des raisons de croire qu'il est vrai que P, c'est parce que, préalablement à l'acquisition de cette soi-disant croyance, il ne la considérait pas comme une authentique croyance, c'est-à-dire comme quelque chose qui vise à représenter la réalité. Par conséquent, une fois sa croyance acquise, le père se trouve dans une position incohérente. Il sait que sa supposée croyance procède de sa volonté et non d'un ajustement de son esprit au monde. Mais comment pourrait-il en pleine conscience tenir quelque chose pour vrai, tout en sachant que l'acquisition de cette croyance n'est pas une réponse naturelle de son esprit à ce qu'il a observé ? En fait, dès que nous savons qu'une croyance est acquise indépendamment de la considération de sa vérité, nous cessons immédiatement de la considérer comme une croyance. Si nous savons qu'elle procède de notre volonté de croire, alors nous ne parvenons plus à la reconnaître comme une croyance, c'est-à-dire comme quelque chose que nous tenons pour vrai du seul fait de raisons liées à l'état réel du monde. Quand nous tenons une proposition pour vraie parce que cela est conforme à nos désirs ou nos espoirs, notre attitude n'est pas une croyance, mais une forme d'acceptation. C'est un engagement volontaire de l'esprit en faveur d'un énoncé pour des raisons qui ne sont pas liées à sa vérité, mais qui tiennent à d'autres motifs, comme des raisons pragmatiques. Ainsi, nous pouvons accepter que Dieu existe, non pas parce que nous avons des raisons de croire que Dieu existe, mais parce que nous estimons que cela favorise notre action, que cela nous apporte un confort psychologique. En réalité, dans ce cas, ce que nous voulons, ce n'est pas tant croire un énoncé qu'être dans un certain état psychologique. Toutefois, si l'on peut bien vouloir être dans un état de croyance parce qu'on juge cela confortable, cela n'implique pas que l'on puisse vouloir croire un certain contenu de croyance. L'impossibilité signalée par Williams est de nature conceptuelle. Elle touche au concept même de croyance. Le propre de la croyance étant de viser le vrai et de se fondre dans le moule des faits observés, il n'est pas possible de croire ce que nous savons être faux et peu étayé. Si croire que P, c'est nécessairement croire qu'il est vrai que P du fait de raisons liées à l'état du monde et non à nos désirs, alors une croyance volontaire est impossible. À l'argument de Williams contre le volontarisme doxastique, on peut ajouter un autre argument de nature psychologique. Il est douteux que nous puissions ajuster la force de notre assentiment comme nous le voulons. La plupart du temps, une fois l'évidence perçue, l'assentiment suit nécessairement et sa force est déterminée par la qualité des preuves disponibles. Locke constate que c'est seulement lorsque l'évidence est ambiguë ou que les preuves sont suspectes que l'assentiment, le dissentiment ou la suspension du jugement sont des actions volontaires. Mais dans les cas non ambigus où les preuves sont manifestes, nous ne sommes pas capables de choisir de quel côté placer notre assentiment. En ce cas, on ne peut éviter de donner notre assentiment au côté où l'on perçoit la plus grande probabilité. Nous sommes aussi peu en liberté de croire ou de ne pas croire que nous sommes en liberté de percevoir ou de ne pas percevoir quand nous tournons les yeux vers les objets et que nous les regardons en plein jour. Cette irrésistibilité de l'assentiment, qui plie naturellement sous le poids de l'évidence perçue, Locke l'avait déjà constaté dans ses premiers écrits consacrés à la tolérance religieuse. Notre incapacité psychologique à avoir la commande sur notre assentiment appuyait l'idée selon laquelle nos croyances ne sont pas pénalisables puisqu'elles ne sont pas volontaires. Comme nous n'avons pas le contrôle sur notre assentiment, on ne peut pas nous reprocher d'avoir les croyances que l'on a et personne ne peut nous imposer d'avoir certaines croyances. Je cite « Aucun homme ne peut donner à un autre un pouvoir sur une chose sur laquelle il n'a lui-même aucun pouvoir. » Or, qu'un homme soit incapable de commander à son propre entendement ou de décider positivement aujourd'hui de l'opinion qu'il aura demain, c'est ce que démontre à l'évidence l'expérience et la nature même de l'entendement, lequel ne saurait pas plus appréhender les choses autrement qu'elles ne lui apparaissent que l'œil n'est capable de voir dans l'arc-en-ciel d'autres couleurs que celles qu'il y voit. Aussi, quand même nous le voudrions, il ne dépend pas de nous de croire que telle ou telle chose soit véritable. Autrement dit, nous ne pouvons pas croire ou cesser de croire sur commande, indépendamment des données disponibles. Cet argument, en donnant le coup de grâce au volontarisme doxastique, nous invite à poser à nouveau frais la question de la possibilité d'une éthique de la croyance. Si nos croyances sont involontaires, dans quelle mesure pouvons-nous être blâmés ou félicités pour les croyances que nous avons ? N'est-ce pas l'idée même selon laquelle nous serions responsables de nos croyances qui est remise en cause ? Pourtant, les perspectives ne sont pas si sombres. Locke nous donne la piste d'une solution en suggérant que là où s'exerce notre volonté, ce n'est pas au niveau de l'adoption de telle ou telle croyance, mais c'est en amont, lorsque nous faisons l'état des lieux des preuves disponibles. Ainsi, il précise que ce qu'à l'examen approfondi je trouve le plus probable, je ne peux lui refuser mon assentiment. En d'autres termes, si ma croyance est irrésistible une fois l'évidence perçue, encore faut-il que j'aie bien voulu mener au préalable un examen approfondi des preuves en présence. Car même si on ne peut s'empêcher de donner son assentiment là où la probabilité apparaît manifestement, on peut empêcher l'assentiment en arrêtant l'enquête et en n'utilisant pas ses facultés pour la recherche de vérité. On comprend donc que notre volonté s'exerce non pas dans le choix de croire telle ou telle chose en particulier, mais dans le choix de conduire son entendement de telle ou telle manière. Par exemple, de façon plus ou moins approfondie. C'est pourquoi je développerai dans un deuxième temps l'idée selon laquelle le caractère involontaire de nos croyances ne compromet pas l'existence d'une éthique de la croyance, puisque ce sur quoi nous avons le contrôle, ce n'est pas sur nos croyances elles-mêmes, mais sur la manière dont nous orientons notre esprit. Nous pouvons choisir d'être plus ou moins circonspects dans l'enquête sur les preuves de nos croyances. C'est dans le choix de notre conduite intellectuelle que nous disposons d'une marge de manœuvre. Par conséquent, l'éthique de la croyance est compatible avec un volontarisme doxastique indirect, c'est-à-dire avec l'idée selon laquelle la volonté s'exerce non pas directement sur nos croyances, prises au cas par cas, mais indirectement au niveau de notre attitude générale face à l'enquête et l'examen des preuves. Nous avons le pouvoir de croire plus ou moins bien selon la manière dont nous décidons de conduire notre entendement quand nous passons en revue les preuves disponibles. Pour le comprendre, partons d'un exemple donné par William Clifford, un mathématicien et essayiste anglais de la fin du XIXe siècle, dans son essai intitulé « L'éthique de la croyance ». Il imagine un armateur sur le point d'envoyer en mer un navire avec des émigrés à bord, mais qui doute de la salubrité du navire et de sa capacité à arriver à bon port. Je le cite. Ce soupçon préoccupait son esprit et rendait l'armateur mécontent. Ce dernier pensait que, peut-être, il avait à sa charge de faire examiner et réparer le navire, même si cela devait le conduire à de grosses dépenses. Avant que le navire n'ait quitté le port, néanmoins, l'armateur réussit à se débarrasser de ses considérations déprimantes. Il se dit à lui-même que son navire avait déjà réussi à accomplir tant de trajets et avait traversé tant de tempêtes qu'il serait stérile de supposer qu'il ne réchapperait pas à ce voyage également. Il écarterait de ses pensées toutes les suspicions les moins charitables à l'égard de ceux qui avaient construit le navire et de ceux qui l'avaient fourni. De cette manière, il acquit la conviction sincère et commode, selon laquelle son vaisseau était véritablement sûr et capable de naviguer. Il assista à son départ le cœur léger et plein de vœux bienveillants ce qui concerne le succès de ses émigrés dans leur nouveau foyer à venir. Quand le navire en question sombra au milieu de l'océan, l'armateur toucha sa couverture d'assurance sans faire d'histoire. Clifford conclut de cet exemple que l'armateur est coupable de la mort des émigrés, car même s'il était sincèrement convaincu de la bonne conduite du navire, sa croyance n'a pas été correctement acquise. L'armateur avait le devoir d'enquêter sur les évidences disponibles, ce qu'il a volontairement omis de faire. Sa responsabilité se situe dans cette omission volontaire. Elle ne se situe pas au niveau de la croyance, qui suit naturellement la perception des preuves disponibles, mais elle se situe au niveau de la manière dont l'agent a enquêté sur les preuves. Clifford note ainsi que l'armateur a acquis sa croyance non pas en la gagnant patiemment grâce à une enquête minutieuse, mais en comprimant ses doutes. Et même si en fin de compte, il s'est senti tellement sûr de son opinion qu'il ne pouvait pas penser différemment, dans la mesure où il s'est consciemment et volontairement forgé cet état d'esprit, il doit être tenu pour responsable de ce dernier. Précisons, ce dont l'armateur est responsable, ce n'est pas de sa croyance, mais c'est de la manière dont il est parvenu à sa croyance. En l'occurrence, il a pris activement des mesures pour ne pas être confronté à certaines données. Il s'est aveuglé volontairement en décidant de ne pas approfondir son examen de l'état du navire, sachant que s'il avait été mis en présence de ces données, il n'aurait pu les nier. Il est donc intervenu en amont, en supprimant des doutes ou en évitant d'enquêter, ce qui est une stratégie indirecte d'occultation de l'évidence. Nous pouvons en conclure que nous sommes responsables de la qualité de notre enquête et que celle-ci détermine par la suite nos contenus de croyances. Si nos croyances suivent irrésistiblement de l'évidence perçue, à charge pour nous de nous investir de façon plus ou moins circonspecte dans l'enquête sur les preuves et de décider de poursuivre l'enquête ou au contraire d'y mettre un terme. Alors, on pourrait tout de même nous objecter que la manière dont nous rassemblons et examinons les données probantes n'est pas toujours laissée à notre libre choix. La manière dont nous conduisons notre entendement dépend grandement de nos habitudes intellectuelles et celles-ci, une fois contractées, ne peuvent pas être changées du seul fait d'une décision de la volonté. Par exemple, on peut penser que la manière dont l'armateur mène son enquête reflète une tendance générale de son esprit et que s'il a fait preuve de négligence dans ce cas précis, c'est parce qu'il est structurellement conduit à se comporter de la sorte. Si l'attitude de l'armateur est condamnable, ce n'est pas parce que, dans ce cas précis, il n'a pas suffisamment enquêté sur les évidences disponibles, mais c'est parce que cette négligence est la manifestation d'un défaut intellectuel plus profond et général, à savoir le fait qu'il soit partial et paresseux intellectuellement. La partialité et la paresse intellectuelle sont des traits de l'esprit qui orientent et déterminent la qualité de l'enquête sur les preuves des croyances. Pour croire comme il faut donc que nous ayons le contrôle sur ces traits de l'esprit. Bien croire, c'est posséder les traits intellectuels qui nous conduisent à enquêter sur les preuves de la façon la plus rigoureuse et patiente qui soit. En d'autres termes, être un bon croyant, c'est être vertueux intellectuellement. Une telle affirmation implique de se déprendre du modèle d'analyse adopté jusqu'à présent. Pour le moment, nous avons considéré les croyances comme des événements mentaux ponctuels qui procèdent d'un acte de la volonté. Or, la prise en compte du caractère involontaire des croyances et du rôle de nos habitudes intellectuelles dans le façonnement du croyant que nous sommes doit nous encourager à changer de cadrage. Ce dont nous sommes responsables, c'est d'être tel ou tel type de croyant. Selon le croyant que nous sommes, nous orientons notre vie intellectuelle de manière différente, du point de vue de la façon dont nous conduisons nos enquêtes, préalablement à la formation de nos croyances, et de la façon dont nous faisons face aux nouveaux éléments de preuve une fois nos croyances formées. Pour le dire autrement, ce que nous devons évaluer, ce ne sont pas les fondements de chacune de nos croyances, ce qui serait une tâche impossible, mais c'est l'orientation générale de notre vie intellectuelle, c'est-à-dire notre personnalité épistémique dans son ensemble. Ici, épistémique renvoie à l'épistémé, c'est-à-dire le savoir en général. L'adoption de ce nouveau point de vue, plus global, est le programme de ce que l'épistémologie analytique contemporaine nomme l'épistémologie de la vertu. Le point focal de cette éthique intellectuelle, ce ne sont pas les croyances, mais les personnes qui croient. Nos croyances étant façonnées par nos traits de caractère intellectuel, ce sont ces derniers qu'il faut évaluer pour statuer sur la correction ou l'incorrection de la vie intellectuelle de la personne. L'idée générale de l'épistémologie de la vertu est qu'une croyance est correcte quand elle est vraie et qu'elle procède des vertus intellectuelles. Les vertus intellectuelles sont des dispositions, des traits de caractère ou des attitudes profondément implantées dans l'esprit de la personne et qui favorisent la recherche, la conservation et le partage de biens intellectuels. Ces biens intellectuels peuvent être la vérité, la connaissance ou la compréhension. Parmi les vertus intellectuelles ou épistémiques, on trouve l'ouverture d'esprit, l'impartialité, l'humilité intellectuelle, le courage intellectuel et la pertinence. À ces vertus s'opposent des vices intellectuels, comme la fermeture d'esprit, la partialité, l'arrogance, la nonchalance intellectuelle, la bêtise et l'obsession. Locke a souligné le rôle des vices et des vertus intellectuelles dans le façonnement de la personnalité épistémique des croyants. À ses yeux, la vertu intellectuelle primordiale est l'indifférence, qui est la disposition de l'esprit à recevoir et embrasser une opinion d'après la seule évidence. L'indifférence est une disposition de l'esprit, c'est-à-dire que le souci de l'évidence ne s'impose pas à l'agent comme une prescription extérieure, une règle qu'il devrait respecter à chaque fois qu'il forme une croyance, mais qu'il pourrait décider de négliger. Au contraire, ce souci de l'évidence est intériorisé, intégré à la vie intellectuelle de l'agent sous la forme d'une habitude de l'esprit. Dans ces conditions, reste à savoir dans quelle mesure nous sommes libres d'avoir la personnalité épistémique que nous avons, c'est-à-dire dans quelle mesure nous sommes responsables de nos vertus intellectuelles. Alors John Locke nous est à nouveau utile pour répondre à cette question. Dans un texte publié de façon posthume, De la conduite de l'entendement, il montre jusqu'à quel point nous avons le pouvoir de façonner notre personnalité épistémique et ainsi de devenir le type de croyant que nous sommes. Un croyant honnête, impartial, courageux ou obtus, superficiel, timoré. Car même si les vices et les vertus intellectuelles se présentent souvent comme des penchants naturels de l'esprit, il s'avère que la plupart d'entre eux ne sont devenus des automatismes qu'à force d'efforts et d'applications. C'est donc au niveau de l'acquisition de nos traits de caractère intellectuel que se concentre notre responsabilité et qu'intervient la volonté. Selon Locke, nos vertus intellectuelles s'acquièrent par un processus comparable à celui mis en œuvre pour apprendre un geste, comme un mouvement de jambe pour le gymnaste ou un mouvement de doigt pour le pianiste. On ne peut venir à bout de la raideur du corps et de l'esprit qu'à force d'exercices répétés. Je le cite. « Les jambes d'un maître de danse et les doigts d'un musicien forment, pour ainsi dire, naturellement, sans pensée ni peine, des mouvements réguliers et admirables. Faites-leur changer leur rôle et ils tenteront en vain de produire des mouvements de ce genre avec des membres non exercés. Et il faudra beaucoup de temps et une longue pratique pour gagner ne serait-ce qu'une partie d'une semblable capacité. Il en est de l'esprit à cet égard comme du corps. C'est l'exercice qui le fait ce qu'il est. Et même la plupart de ces qualités qui sont regardées comme des dons naturels apparaîtront, quand on les examine de plus près, le produit de l'exercice, mené à ce point de perfection par des actions répétées. Ainsi, pour acquérir les bonnes habitudes intellectuelles, il faut au départ se forcer à réaliser des exercices simples, pour lesquels notre esprit n'a pas d'attrait particulier. Selon les individus et le terreau mental de chacun, il pourra s'agir d'examiner patiemment les idées qui se présentent, ou bien de ne pas s'apesantir sur la même idée, mais de considérer régulièrement de nouvelles idées, ou bien encore de s'habituer à faire défiler une suite d'idées dans son esprit. Dans tous les cas, l'acquisition d'une habitude intellectuelle procède selon le même principe que celui de la facilitation des traces. Le premier passage est pénible, les passages suivants aplanissent la voie et rendent la réalisation des exercices plus aisée, jusqu'à ce que le terrain soit complètement battu et que la disposition contractée fasse partie intégrante de la nature de l'individu. L'acquisition d'une vertu intellectuelle a un côté fastidieux et répétitif, ce qui suppose un engagement constant de l'esprit. Par conséquent, il faut que l'individu soit sérieusement motivé par la fin visée, faute de quoi il n'aura pas le courage de déployer les efforts nécessaires pour instiller en lui de nouvelles habitudes intellectuelles. C'est précisément à cet endroit que la volonté intervient. Car pour vouloir mettre en œuvre les exercices grâce auxquels on fraiera la voie à une nouvelle disposition, on doit vouloir la fin. Cette fin, Locke la nomme la vérité pour elle-même. Il désigne par là le goût de la vérité indépendamment des intérêts et des passions qu'elle peut servir. Une fois la volonté fermement arrimée à cette fin, les moyens suivront. Il semble donc que seul un désir ardent pour la vérité peut nous inciter à ce que, tel un forgeron, nous façonnions notre personnalité épistémique afin de devenir vertueux intellectuellement. Mais c'est là que le bât blesse. En effet, quel sens cela a-t-il aujourd'hui de chercher le vrai pour le vrai ? Peut-on encore vouloir la vérité pour elle-même ? Si bien croire, c'est être vertueux intellectuellement, et si pour vouloir devenir vertueux intellectuellement, il faut vouloir le vrai pour lui-même, comment peut-on bien croire dans un monde dans lequel la norme de la vérité est contestée de toutes parts ? Nous en arrivons donc à un nouveau moment de notre analyse. Après avoir mis au jour les conditions de possibilité conceptuelle et psychologique d'une éthique de la croyance, il nous faut dorénavant nous interroger sur les conditions effectives qui favorisent ou compromettent la conduite vertueuse de l'esprit. En d'autres termes, il nous faut faire de la philosophie de terrain, ou de l'épistémologie de la vertu appliquée. Il faut quitter la réflexion générale et a priori et prendre en compte l'environnement concret dans lequel les personnes évoluent. C'est une démarche qui a déjà été mise en œuvre par l'épistémologie féministe ou la théorie critique de la race, qui montre dans quelle mesure l'appartenance à certaines catégories de la population influence les pratiques intellectuelles de recherche ainsi que les caractères intellectuels de leurs membres. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de comprendre pourquoi le programme de l'épistémologie de la vertu peut paraître difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, à la fois pour des raisons externes, liées au type d'environnement dans lequel s'effectue le partage des informations, et pour des raisons internes, liées à la prédominance de certains traits de caractère intellectuel. J'analyserai successivement ces deux facteurs et montrerai dans quelle mesure ils ont une influence sur la capacité qu'ont les personnes à devenir vertueuses intellectuellement, c'est-à-dire à bien croire. Alors, le premier facteur est un facteur externe. Il concerne l'environnement épistémique dans lequel les personnes évoluent. Par environnement épistémique, j'entends l'environnement dans lequel s'effectue la recherche, la conservation et le partage des biens intellectuels. L'environnement épistémique ne comprend pas simplement notre communauté d'appartenance et les structures sociales et institutionnelles dans lesquelles nous avons été éduqués. À cet environnement physique, qui comprend notre famille, les écoles que nous avons fréquentées, les cercles sociaux dans lesquels nous évoluons, il faut ajouter un autre environnement dont la place est croissante dans nos vies. Je veux parler de l'environnement numérique, virtuel, qui se développe sous la forme des réseaux sociaux et des blogs. La question est de savoir dans quelle mesure l'appartenance à ces communautés numériques favorise ou obstrue l'accès et le partage des vérités. Il s'agit de préciser si ces environnements sont épistémiquement hostiles, c'est-à-dire s'ils sont saturés d'informations fausses, non fiables ou biaisées, rendant difficile l'accès à des informations concurrentes et pertinentes. Il s'agit également de préciser de quelle manière ces environnements influent sur l'exercice et le développement des vertus et des vices épistémiques. Plus généralement, l'enjeu est de déterminer s'il est possible de bien croire dans un environnement numérique. Ce type de réflexion revient à faire de l'épistémologie de la vertu appliquée à Internet. Dans un article fondateur sur le sujet, T. Nguyen distingue deux types d'environnements épistémiques, les bulles épistémiques et les chambres d'écho. Une bulle épistémique est une structure épistémique sociale dans laquelle des informations pertinentes, mais qui contredisent les croyances de ses membres, sont laissées de côté. L'exclusion de ces informations n'est pas intentionnelle. Elle se fait par omission et s'explique par les mécanismes ordinaires de la sélection sociale et le fait que nous utilisions généralement les mêmes sources d'informations que les personnes avec lesquelles nous partageons les mêmes opinions et centres d'intérêt. Ce faisant, les membres de ces bulles épistémiques s'imposent une sorte de filtre qui laisse de côté les données contraires à leurs croyances. À l'opposé, une chambre d'écho est une structure épistémique sociale qui discrédite et exclut de façon active les opinions contraires à celle de ses membres. Toutes les sources d'informations concurrentes sont présentées comme non fiables, ce qui renforce la dépendance de ses membres à l'égard des sources d'informations internes à la Chambre d'écho. Nguyen précise que si la confrontation à des croyances concurrentes peut suffire à faire éclater une bulle épistémique et à encourager ses membres à développer la vertu intellectuelle de l'ouverture d'esprit, il est par contre beaucoup plus difficile d'échapper à une chambre d'écho une fois qu'on y est inscrit. En effet, la confrontation à des informations concurrentes ne fragilise pas, mais renforce les croyances des membres d'une chambre d'écho. Nous pouvons prendre l'exemple des théories du complot, comme celles relayées par les climato-sceptiques. Les scientifiques qui mettent en évidence le changement climatique et affirment qu'il résulte de l'activité humaine ne sont pas considérés comme indépendants, mais sont d'emblée catégorisés comme corrompus. De la sorte, les membres d'une chambre d'écho climato-sceptique ne réévaluent jamais leurs croyances à l'aune des nouvelles données disponibles, ce qui conduit à la fossilisation de leur système doxastique. Les bulles épistémiques et les chambres d'écho apparaissent comme des environnements épistémiques hostiles, puisqu'ils peuvent conduire leurs membres à négliger ou à discréditer des informations vraies et fiables. Ce phénomène est accru avec les bulles épistémiques et les chambres d'écho numériques, qui impliquent des millions d'utilisateurs à travers le monde. L'utilisation d'algorithmes structure l'expérience numérique de ces utilisateurs, qui ne se voient présenter que des informations conformes à leurs croyances. Qui plus est, l'appartenance à ces environnements numériques favorise le développement de certains vices épistémiques, comme le dogmatisme et l'arrogance. Le dogmatisme correspond à une forme d'étroitesse intellectuelle. Il s'agit d'une disposition de l'esprit qui conduit l'individu à être réticent à prendre sérieusement en compte des alternatives pertinentes aux croyances qu'il a déjà. En effet, le fait d'être toujours exposé aux mêmes informations conduit les individus à surévaluer le poids qu'ils accordent à ces informations, et ce trop plein de confiance les empêche d'être sensibles à la pertinence d'informations adverses. C'est pourquoi le dogmatisme va souvent de pair avec l'arrogance intellectuelle, c'est-à-dire avec la disposition à sous-estimer ses limites et à surestimer la fiabilité de ses facultés intellectuelles. Les personnes arrogantes estiment ainsi qu'elles n'ont pas à examiner les données qui contredisent leurs croyances. Alors, malgré tout, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives et considérer que les bulles épistémiques et les chambres d'écho numériques sont par essence des nids à vices épistémiques ou qu'elles ont naturellement tendance à corrompre la personnalité épistémique de leurs membres. Après tout, ce ne sont pas toutes des environnements épistémiques hostiles, en particulier si elles relaient des croyances vraies. Prenons l'exemple d'une communauté numérique dont les membres partagent la croyance que le changement climatique est réel et résulte de l'activité humaine. Dans ce contexte, la disposition au dogmatisme peut même se présenter comme une vertu. En effet, il peut être salutaire intellectuellement d'être dogmatique et de refuser de prendre en compte une information qui contredit l'une de nos croyances, si cette croyance est vraie ou si nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle est vraie. C'est pourquoi nous devons être prudents quand il s'agit de déterminer si la disposition au dogmatisme est un vice ou une vertu de l'esprit. Cela dépend en grande partie du type d'environnement épistémique dans lequel la personne évolue. S'agit-il d'un environnement épistémique hostile ou ordinaire ? Cela dépend également de la manière dont nous appréhendons la justification des croyances. Si nous souscrivons à une conception externaliste de la justification, alors ce qui justifie une croyance est externe à la perspective du croyant. Il s'agit d'un fait auquel il n'a pas accès, comme le fait que ces croyances sont le produit de facultés fiables. Mais si nous souscrivons à une conception internaliste de la justification, alors seuls les éléments internes aux croyants auxquels il peut avoir accès, constitue à ses yeux de bonnes raisons de croire. Dans ce cadre internaliste, on peut tout à fait imaginer des personnes vertueuses intellectuellement qui évoluent dans des chambres d'écho épistémiquement hostiles. Ce serait le cas d'une personne qui aurait grandi dans une chambre d'écho discréditant systématiquement toute information parlant en faveur de l'existence du changement climatique. Si cette personne a, de son point de vue, de bonnes raisons de croire en la vérité de ses croyances et en la fausseté des croyances adverses, alors sa réticence à examiner sérieusement les croyances adverses n'apparaît pas comme un vice épistémique. Par contre, d'un point de vue externe, la même attitude apparaît comme un vice intellectuel. En conséquence, les dispositions intellectuelles ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises, Leur statut normatif dépend de facteurs variables. Alors, parvenus à ce point d'analyse, essayons de préciser dans quelle mesure nous pouvons statuer sur les conditions de possibilité d'une éthique de la croyance. Si la possibilité d'une éthique de la croyance est conditionnée à la part de responsabilité qu'ont les personnes dans le développement de leurs vertus et de leurs vices intellectuels, et si la question de savoir si des traits de caractère sont des vertus ou des vices intellectuels est étroitement corrélée à des critères contextuels, alors il pourrait sembler que cela n'a pas de sens de féliciter ou de blâmer quelqu'un pour être le type de croyant qu'il est, puisque généralement, notre appartenance à un environnement épistémique n'est pas l'expression d'un choix, mais quelque chose dont on hérite et qui s'impose à nous malgré nous. Il y a une part inexorable de hasard dans le type d'environnement qui nous échoit. Pour autant, cela ne nous prive pas complètement de responsabilité dans ce domaine. En effet, nous pouvons vouloir changer d'environnement épistémique et nous donner les moyens d'opérer ce changement. Par exemple, en nous habituant à nous confronter à des sites d'information qui ne sont pas consultés par les membres de notre communauté. Malgré tout, il faut admettre que si nous sommes aux prises avec une chambre d'écho depuis notre plus jeune âge, la possibilité que nous voulions changer d'environnement épistémique semble compromise. Cela supposerait, par exemple, que le membre d'une communauté sectaire veuille s'en extraire par lui-même. De telles échappées ne sont pas impossibles, mais comme le montrent les récits de ceux qui y sont parvenus, cela dépend souvent d'un facteur externe, comme la rencontre avec une personne qui appartient à une autre communauté épistémique, personne à laquelle on finit par accorder sa confiance, ce qui incite le croyant à cultiver l'ouverture d'esprit et déclenche un renouvellement profond de son système de croyance initiale. Un autre facteur influe sur la capacité qu'ont les personnes à vouloir devenir vertueuses intellectuellement. C'est l'orientation générale de leur vie intellectuelle, ou encore leur finalité épistémique. En effet, qu'est-ce qui motive leurs actions intellectuelles ? En fonction de quoi décident-elles de négliger une opinion ou de poursuivre une enquête ? À l'aune de quel but leurs actions intellectuelles sont-elles hiérarchisées ? Plus précisément, qu'est-ce qui les guide dans la conduite de leur esprit ? Est-ce le désir du vrai ? Ou bien est-ce le désir d'impressionner autrui, d'avoir l'ascendant dans le débat ? Nos actions intellectuelles peuvent être arrimées à des objectifs très variables. Avec Locke, nous avons vu que ce qui motive les personnes à déployer des efforts afin de devenir vertueuses intellectuellement, c'est leur désir du vrai pour lui-même, for its own sake, selon ses termes. Pour vouloir développer des vertus intellectuelles et supporter les efforts que cela implique, il faut vouloir le vrai résolument et indifféremment, c'est-à-dire quelle que soit l'opinion à laquelle la vérité est attachée, en accordant de poids qu'aux seules évidences disponibles. Cependant, comment faire quand le désir du vrai s'étiole ? Un tel désir peut paraître totalement dépassé, à une époque où les sirènes du relativisme ne cessent de nous rabâcher que la vérité absolue est un idéal périmé, rétrograde, voire l'expression d'un autoritarisme dont il faut se libérer. Dans ces conditions, comment pourrions-nous encore vouloir bien croire ? Si cela signifie vouloir la vérité et rien que la vérité. Car la volonté de bien croire fait face à de forts vents contraires, comme un désintérêt croissant pour le vrai, voire un dégoût du vrai, selon le diagnostic de Claudine Tiercelin. Nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité et du post-factualisme, dans laquelle des menteurs effrontés peuvent devenir les rois du monde, pendant que des personnes vertueuses intellectuellement croupissent dans le marécage du vrai et des faits objectifs. Locke avait pris note de cette tendance, remarquant que des personnes sont indifférentes à choisir la vérité ou l'erreur. Plus récemment, Kwasim Kassam parle d'insouciance épistémique. Ce trait de caractère se manifeste par un manque de souci pour le vrai et débouche sur la production de discours qui ne sont plus adossés aux antiques normes de la vérité et des faits objectifs. Seul compte la promotion des émotions ou des opinions personnelles. La vérité n'est plus posée comme une exigence ou une norme intrinsèque de nos croyances, mais elle est considérée comme une contrainte embarrassante. Dès lors, il ne faudrait plus tant vouloir le vrai que vouloir se débarrasser de cet idéal obsolète. Alors que pouvons-nous en conclure pour notre question de départ ? Il s'agissait de préciser dans quelle mesure nous sommes responsables de nos croyances. Nous avons vu que cette responsabilité ne s'exerce pas dans le choix de nos croyances prises individuellement, mais dans le choix de modeler notre caractère épistémique de telle ou telle façon. Cependant, pour vouloir devenir vertueux intellectuellement, Encore faut-il vouloir le vrai. Nous faisons face à une difficulté dirimante, puisque si nous estimons que ce désir du vrai n'est pas un trait constitutif de la nature humaine, sa genèse dépend alors d'une part irréductible de hasard épistémique, ou ce qui revient au même, de circularité épistémique. En effet, la meilleure façon d'être vertueux intellectuellement n'est-elle pas de naître dans une communauté qui est déjà intellectuellement vertueuse ? Plus précisément, la question est de savoir s'il faut considérer l'insouciance épistémique comme une attitude choisie ou comme un comportement intellectuel involontaire. Alors, il existe certainement des personnes qui cultivent cette indifférence au vrai de façon active et qui la revendiquent avec fierté et provocation. On peut penser à Donald Trump et à sa façon méprisante de renvoyer les affirmations bien documentées des journalistes dans la catégorie des fake news. Reste que l'insouciance épistémique peut aussi se présenter comme une maladie de l'esprit qui affecte certains individus malgré eux. Selon Kassam, il s'agit d'un comportement intellectuel nonchalant qui, dans la plupart des cas, n'est pas choisi. Pour autant, même si l'insouciance épistémique n'est pas une attitude volontairement adoptée, cela ne prive pas de responsabilité les personnes qui en sont affectées. Là encore, il en va de la possibilité d'une éthique de la croyance. Même si les personnes indifférentes à la vérité n'ont pas choisi ce trait de caractère, il leur est possible d'opérer un changement d'orientation intellectuelle et de décider de se laisser guider par les normes de la vérité et de l'évidence. Bien que cette démarche soit difficile à mettre en œuvre, elle n'est pas structurellement impossible à initier. Alors cette démarche est difficile à mettre en œuvre pour des raisons que nous avons déjà évoquées. En effet, dès lors que toutes nos actions intellectuelles sont pétries dans la même matrice, qu'est-ce qui peut nous conduire à vouloir rompre avec cette habitude ? À moins de présupposer que nous soyons déjà intellectuellement vertueux ou que nous soyons conseillés par un entourage intellectuellement vertueux, on ne voit pas ce qui pourrait nous conduire à vouloir nous extraire de cette attitude. Le projet qui consiste à vouloir se réformer intellectuellement suppose que nous ayons déjà fait une partie du chemin et que nous ne soyons pas complètement façonnés par les vices intellectuels. Il faut qu'au milieu de toute notre corruption épistémique, il subsiste une part de nous-mêmes qui désire le vrai pour le vrai. Seul ce désir du vrai et les incitations de notre communauté peuvent nous conduire à vouloir amender notre caractère intellectuel. Malgré tout, cette démarche n'est pas impossible à mettre en œuvre. Comme le note Kassam, même si nous n'avons pas acquis volontairement nos vices épistémiques, nous sommes responsables de notre caractère intellectuel. Il nous est en effet possible d'exercer une forme de contrôle sur lui et de le modifier. Il ne s'agit pas d'un contrôle direct, mais nous pouvons modeler nos traits de caractère en manipulant des éléments sur lesquels il nous est possible d'agir et qui ont une influence sur ces traits de caractère. C'est le cas de notre environnement épistémique. Changer d'environnement épistémique est un moyen indirect d'influer sur notre attitude intellectuelle. Évidemment, initier un tel changement suppose soit le choc d'une rencontre avec une personne issue d'un autre environnement épistémique que le nôtre, soit que nous ne soyons pas totalement sous la coupe de l'insouciance épistémique et que nous en percevions le caractère vicieux. Toujours est-il que même si l'indifférence au vrai n'est pas un trait de caractère volontairement acquis, c'est un trait de caractère que les individus peuvent amender. C'est à ce titre qu'ils peuvent être critiqués pour le posséder. Même s'ils ne sont pas responsables de son acquisition, ils ont le pouvoir de le corriger. Cette correction s'exerce par un contrôle manipulatoire des facteurs qui participent au maintien ou à l'affaiblissement de ce trait de caractère. Ainsi, le fait qu'un individu puisse vouloir corriger sa personnalité épistémique garantit la possibilité théorique d'une éthique de la croyance. Cela ne préjuge pas de la possibilité pratique d'une telle éthique, c'est-à-dire des conditions concrètes de sa mise en œuvre. Car encore une fois, vouloir changer d'environnement épistémique afin d'influer sur ses traits de caractère n'est pas chose aisée. On ne change pas facilement de communauté épistémique. Le fait que sur Internet nous puissions aisément naviguer et aller voir ce qui se passe dans une autre communauté numérique n'implique ni que nous voulions forcément le faire, d'une part, ni que ce changement soit aussi facile à opérer dans des communautés physiques, d'autre part. Alors, en dépit des difficultés que nous venons de mentionner, nous pouvons conclure sur le fait que le projet d'une éthique de la croyance est pertinent, à condition toutefois d'en délimiter précisément le périmètre d'intervention. Nous avons vu que cela suppose de circonscrire rigoureusement la place de la volonté. Ainsi, j'ai commencé par montrer que notre responsabilité au niveau des croyances n'implique pas que nous ayons un contrôle volontaire sur ces croyances elles-mêmes. Nous sommes responsables de notre manière de croire et du fait que nous croyons de façon plus ou moins vertueuse, mais nous n'avons pas non plus de contrôle volontaire direct sur nos traits de caractère intellectuel. Par contre, nous pouvons jusqu'à un certain point façonner notre personnalité épistémique et mettre en place des exercices qui nous permettront de devenir le type de croyant que nous voulons être. Car si nous ne sommes pas responsables des dispositions intellectuelles dont nous sommes naturellement dotés, nous sommes responsables de leur maintien, de leur correction ou de leur abandon. Nous pouvons entreprendre de réduire nos vices épistémiques et mettre en place des stratégies qui, indirectement et progressivement, nous inciteront à être de bons croyants, c'est-à-dire des croyants intellectuellement vertueux. J'ai montré que la mise en place de ces stratégies suppose ultimement que nous voulions que nos pratiques intellectuelles soient guidées par la seule norme du vrai. Nous butons là sur la principale difficulté sur laquelle achoppe la mise en œuvre effective d'une éthique de la croyance. Car pour vouloir le vrai, il semble d'une part qu'il faille que nous soyons déjà un minimum vertueux ou entourés de personnes intellectuellement vertueuses, et cela suppose d'autre part une volonté de faire, capable d'aller à contre-courant de l'insouciance épistémique et du dégoût du vrai. Aujourd'hui, vouloir le vrai, c'est une affaire de résistance. C'est vouloir résister à la corruption de nos environnements épistémiques. Afin de nous aider dans cette tâche, il me semble que l'éthique de la croyance peut nous être utile en nous présentant des modèles inspirants, c'est-à-dire des croyants intellectuellement vertueux, susceptibles de nous servir de guide et de nous inciter à nous réformer intellectuellement. L'avenir de l'éthique de la croyance n'est pas de prescrire des règles générales pour bien conduire son esprit et croire comme il faut, mais plutôt de décrire des croyants intellectuellement vertueux, en les présentant aux prises avec leur environnement épistémique. C'est à cela que peuvent servir les romans, les biographies intellectuelles et les biopics. En étant incarnés et en nous présentant des parcours intellectuels exemplaires, l'éthique de la croyance peut être émulatrice et nous encourager à vouloir le vrai, à vouloir devenir de bons croyants, c'est-à-dire à nous mettre en marche vers la vie intellectuelle vertueuse. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Mme Tebel.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.